Adrien Brouwer. Deux compagnons, l'un maigre et élancé comme une cigogne, l'autre obèse et ventru comme un muis, galopent sur la route de Flandre en pétulant dans de longues pipes. Leur mine n'est rien moins qu'honnête. Le grand a la figure régulière, mais ravagée par les orgies, l'air hautain et distingué. Le gros a l'air commun, la face purpurée, le nez étincelant comme une braise et fleuri de pompettes écarlates. Quant à l'accoutrement des deux sires, ils tombent en lambeaux. L'homme maigre est vêtu d'un pourpoint qui, jadis, a dû réjouir les belles par ses teintes arcadandines, mais la poussière et les libations l'ont revêtu de ton roux et fuligineux. Ses grecs baissent le nez piteusement, ses souliers sont feuilletés et rient à semelles déployées. Le gros, vêtu de loques dont on ne saurait définir la nuance exacte, a pourtant des choses dont la couleur primitive a dû être un peu jaune citrin, agrémentée de rubans en paire. Mais elles sont si vieilles, si fourbues, si usées, que nous ne serions pas assurés qu'elles aient eu ces teintes agréables dans leur jeunesse. « C'est étonnant, dit le gros, comme la poussière vous sèche le gosier, qu'un beau de servante serait bienvenu. Et mon maître, invoquez le divin Gambridus pour qu'il nous conduise nos pas à un cabaret. Dit Brouwer, tu sais bien que les incomparables Cage et Barbara ont vidé nos poches à envers. Bon, tu peindras un tableau et nous boirons à notre soif. Non, dit le maître, j'ai créé assez de chefs-d'œuvre laissés dans des cabarets pour payer les breuvages. À ton tour, Creusbeck, peins et pèle écho. Hélas, tu sais bien que j'ai les bras encore endoloris des coups que j'ai reçus pour avoir voulu embrasser la jolie Belgique. Ah, c'est vrai, dit Brouwer en riant. Ne discutons pas davantage. Voici un cabaret. Buvons d'abord, nous verrons un payer ensuite. Ils entrèrent. La salle était pleine et tellement enfumée qu'on aurait pu y saurer des harengs. Les jambes allongées, le feutre enfoncé jusqu'aux yeux, des personnages en guenilles fumaient à perdre haleine et buvaient en criant et se disputant. Une servante, en train de guer du linge dans la salle voisine, rythmait à coups de palette les chansons que nasillaient quelques-uns de ses marauds. Coutumier de semblables spectacles, le maître et l'élève ne s'en étonnèrent pas, et pendant quelque temps pétunèrent et vidèrent tant de pintes qu'ils conquirent l'admiration des malandrins qui peuplaient ce bouge. Puis Creusbeck poussa son maître du coude et lui dit « S'il s'agissait que de boire, la terre serait un paradis. Mais il faut payer. Allez, voyons, fais un tableau. » Brouwer poussa un soupir et, prenant une petite toile, se mit à peindre vivement la tabagie. « Ce tableau, vous le connaissez, il est au Louvre. » Le personnage le plus saillant est un buveur assis sur une barrique renversée et nous tournant le dos. Le rustre a tant de fois pétuné et tant de fois vidé de larges vides comme qu'il a été choir, nez en avant, sur la table qui lui sert d'appui. Sa chemise a remonté et sort toute bouffante entre son haut de chausse jaune paille et son pourpoint gris fer. Un autre maraud, plus intrépide, nous osons dire plus sobre, allume sa pipe à un brasier rougeâtre et semble absorbé par cette grave occupation. Un troisième nous présente son profil camard et souffle au plafond un nuage de fumée tourbillonnante. Enfin apparaissent, dans la brume qui enveloppe la tabagie, quelques paysans causant avec une petite fille qui se laisse sans répugnance embrasser par l'un de ses truands. « Et parfait !» s'écria Creusbeck en se posant devant le tableau. « Oh, Adrien, tu as le don du génie !» Hals, ton maître n'était qu'un enfant auprès de toi. Hélas, jamais je ne t'égalerai. » Et le pauvre Cosbec alla s'asseoir dans un coin d'un air tout contrit. Les buveurs étaient partis presque tous. La nuit était venue et l'on n'entendait que le crépitement de la pluie sur les vitres et le pétillement des fagots dans l'âtre. La porte s'ouvrit et un homme de haute taille entra et vint s'asseoir au coin du feu. Au bout de quelques instants, il se leva et vint se placer derrière Brouwer. « Eh bien, maître, dit-il, comment vous portez-vous ? » Notre peintre, qui pour beaucoup de raisons ne s'entendait jamais appeler sans effroi, regarda timidement son interlocuteur et reconnut M. de Vermandois, un riche seigneur, qui le premier lui avait payé en reluisant du caton un de ses petits chefs-d'œuvre alors qu'il fuyait à la maison de son maître. « Il est charmant, ce tableau, reprit le gentilhomme. Je l'achète, le prix vous fixerez sera le bien. Apportez-le-moi demain matin. » Puis, comme la pluie avait cessé, il sortit, faisant de la main à Brouwer un geste amical. Tout joyeux de cette aubaine, le peintre fit frémir d'un coup de poing les brocs et les verres qui couraient la table et redemanda de la bière. « Hé, que dis-tu de cela, Joseph ? » s'écria-t-il. « Nous sommes riches, livrons-nous de France sous-là, buvons papalinaire. » Mais Cosbec avait disparu. « Mais où diable est-il ? » murmura notre héros, qui se leva en chancelant. Mais il buta du pied contre une masse énorme, qui le nez aplati contre le plancher, les bras étendus, les jambes écartées ronflaient mélodieusement. C'était le digne Joseph qui avait roulé sous la table et venait d'ajouter sans doute un nouveau rubis aux innombrables fleurons qui décoraient son nez. Brouwer le regarda avec attendrissement et, bredouillant et dodelinant la tête, alla choir sur un escabeau où il s'endormit. « À propos de Vandyck, dit M. de Vermandois, j'ai vu son maître dernièrement. Il regrette, non moins vivement que moi, que vous ayez quitté son palais pour aller à l'aventure, courir les cabarets et les auberges. »« C'est vrai, dit Brouwer. Rubens s'est conduit avec moi comme un véritable ami, comme un grand artiste. Mais ses disciples, vêtus de soie et de velours, m'intimidaient. Aurais-je pu peindre dans ce somptueux atelier ces trognes grimaçantes, ces haillons bizarres, ces postures si grotesques et si naturelles de l'ivrogne qu'elles vous font involontairement sourire? Aurais-je pu rendre avec autant de verve cette réalité pittoresque que vous admirez? Que voulez-vous? L'inspiration me désertait sous les lambris et elle me hantait dans les tripots. » À ce moment, la porte s'ouvrit et une jeune fille parut et fit mine de se retirer en voyant son père causer avec un inconnu. Sur un signe de M. de Vermandois, elle entra. Brouwer fut ébloui. Lui qui n'avait jamais fréquenté que des filles de joie, il resta muet d'admiration devant cette charmante jeune fille. Encadrée à un ovale d'une pureté raphaëlesque de grandes tresses mordorées, imaginez de grands yeux bleus turquoise, une bouche rouge comme l'aile du flamand, vous n'aurez qu'un faible aperçu de la jolie Jenny. Le peintre comprit qu'on pouvait être heureux sans vivre dans les bourdeaux et faire carousse avec de joyeux vauriens. Il se promit de quitter sa vie aventureuse et peut-être, pensait-il, parviendrai-je grâce à mon génie à ne point lui déplaire. Il quitta cette maison, les larmes aux yeux, et loua une mansarde où pendant 3 jours il s'enferma. Le 3e jour, malgré quelques regrets, il résista au désir d'aller retrouver son compagnon, l'ex-boulanger Cosbec. Il se mit à la fenêtre, alluma sa pipe, et regarda dans la rue. Son gîte était mal choisi. Un cabaret faisait face à la chambre qu'il habitait, regorgeant de buveurs et d'éhontés tortillons. Au milieu d'eux, un homme à l'encolure puissante, au bedon piriforme, au nez tout emperlé, lançait d'épaisses bouffées et suçait avec de doux agissements les goulots d'une énorme guédouze. Sa grosse figure rayonnait d'aise. « Tiens, se dit Brouwer, Cosbeck est ici, il s'est donc décidé à peindre et à payer les coûts. » Puis il le regarda boire et un sourire d'envie passa sur ses lèvres. Il s'éloigna de la fenêtre et voulut se remettre à travailler. Il n'y put tenir, il regarda de nouveau dans la rue. Son élève l'aperçut. « Oh, oh, oh !» dit-il sur trois tons différents. Et poussant un cri joyeux, il l'appela. Oh, pour le coup, c'était trop. Brouwer descendit quatre à quatre et, saisissant un broc, il le vida, la face épanouie, l'œil pétillant. Une heure après, il dormait dans un coin, complètement ivre. Le réveil fut moins gai. Il fit silencieusement un paquet de ses hardes et quitta la ville le soir même. 15 jours après, il était de retour à Anvers et mourait à l'hôpital. Cet homme de génie fut enterré dans le cimetière des Pestiférés sur une couche de chaux vive.